Alors, ce que vous êtes dans la joie? Alors, on peut faire un youhou ou un truc comme ça pour montrer. Ah, voilà, ça c'est de la joie. Et est-ce que vous seriez dans la joie si ce matin, parmi nous, il y avait, mettons, le prix Nobel de la paix qui vienne et qui disent « Ah, je suis content de vivre un temps de culte avec vous. » Ouais, moi aussi. Et s'il y avait un joueur de foot international, bon, là il me manque les enfants, ils auraient peut-être plus crié que vous, mais vous seriez d'accord aussi. Ça vous rendrait heureux. Non? Ah, il y en a qui ne sont pas très foot. Ok. Joueur de tennis, alors, on va dire. Ok, joueur de tennis. Ou alors un héros de la foi, quelqu'un dont vous lisez tous les livres, peut-être un Francis Chan ou quelqu'un comme ça qui serait là. Et... Spurgeon, bon, je pense que là, il n'est plus avec nous, mais... mais mettons, il y a des personnes comme ça un peu remarquables, peut-être ça fait des années que vous dites, ah, si je pouvais le rencontrer, et s'il était là, vous seriez dans la joie, non? Ouais, moi pareil. Et est-ce qu'on serait aussi dans la même joie si finalement il y avait tous les racailles de la région qui venait au culte. Ah. Est-ce qu'on serait dans la joie si ça se concrétisait vraiment avec des personnes qui étaient des racketeurs, des dealers, des proxénètes, des voleurs, des hommes corrompus, peut-être des personnes qui sont un peu violentes dans leur quotidien, soit avec nous, des personnes qu'on croise dans la rue et parfois on n'est pas serein de traverser du même côté que le trottoir. Est-ce qu'on serait encore dans la joie? Amen. Mais si ça se concrétisait, et c'est ce qu'on espère, hein, on regarderait quand même un peu autour de nous et quelles seraient nos pensées? Quels seraient nos regards? Peut-être on aurait des regards un peu insistants sur l'un ou l'autre. Quelles seraient nos réactions? Est-ce qu'on entendrait des petits murmures? Hey, mais c'est lui qui m'a pris mon vélo, non? Est-ce que certains diraient, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et je ne sais pas si vous arrivez à vous représenter un peu cette scène, imaginez ces personnes-là dans les chaises qui sont libres aujourd'hui. Comment ça se déroulerait? Jésus l'a vécu, cette scène. Jésus a vécu cette scène où il y a cette diversité en face de lui, des personnes qui sont parfois l'équivalent des prix Nobel de la paix, avec beaucoup de stature, et d'autres, en fait, qui sont ceux où on change de trottoir. Et Jésus arrive à les réunir tous au même endroit. Et je vous invite à ouvrir votre Bible, du coup, en Luc, au chapitre 15. Luc, au chapitre 15. Si vous n'avez pas de Bible, on serait très heureux de vous en prêter une. N'hésitez pas à lever la main, on pourra vous en prêter une. N'hésitez pas, hein, y a pas de mal à ça. Si vous n'en avez pas du tout à la maison, on vous en offre même une. Donc Luc, au chapitre 15, vous avez la même Bible que moi et que vous tâtonnez un peu, c'est la page 676. Et avant de lire le passage du jour, il faut s'imaginer cette situation que je vous ai décrite avec Jésus, avec finalement un peu ces prix Nobel de la paix, avec ces personnes très religieuses de l'autre, avec des personnes qui sont des collecteurs d'impôts, mais qui travaillent pour l'envahisseur romain, des personnes qui ont une mauvaise vie, tout le monde le sait, tout le monde est au même endroit. Et Jésus, finalement, à toutes ces personnes, il est en train de leur expliquer comment devenir disciple de Jésus-Christ. Et Jésus, dans ces quelques passages avant Luc 15, il leur dit, mais en fait, il leur pose une question assez simple. Est-ce que tu es prêt à devenir mon disciple? Est-ce que tu es prêt à devenir disciple de Jésus-Christ? Suis-je prêt à porter ma croix? C'est-à-dire, porter sa croix, c'est porter un instrument de mort sur soi et vivre comme si on était déjà mort aux yeux des autres. C'est-à-dire qu'on n'attend plus rien de toi. Tu n'as plus rien à accomplir. Tu n'as plus rien à faire pour ta propre gloire ou ton propre confort. Et Jésus interroge tout le monde, hein, toutes ces personnes, mais nous aussi aujourd'hui encore. Suis-je prêt à abandonner mon ego, ma notoriété? Suis-je prêt à abandonner mon apparente réussite, mon apparente sainteté, mon apparente satisfaction, mon apparente joie, mais qui est peut-être un peu superficielle, abandonner tout ça pour découvrir la valeur que Dieu voit en toi. n'est pas un bel habit que Dieu te demande de porter. C'est de vivre cette relation avec lui. Cette relation où tu as un serment connecté au cep. Et Jésus, finalement, pose cette question après, qui va nous tenir, je pense, durant ce temps, mais comment provoquer la joie dans le ciel ? On va être dans la joie ici, mais comment on peut la provoquer même dans le ciel ? Et le message qui est clair, c'est que réjouissez-vous pour chaque pécheur qui se repent. Et on va se poser trois questions ensemble. Pour qui la repentance ? Comment accueillir la repentance ? Et pourquoi de la joie dans la repentance ? Et je nous invite à lire le texte, donc en Luc au chapitre 15, et on lira du verset 1 à 10. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant, « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux !» Alors, il leur dit cette parabole, « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en a perdu une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Lorsqu'il la retrouve, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Ou bien, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas aller allumer la lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Alors la première question, c'est pour qui la repentance ? Et le texte nous dit, tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disaient, cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Et en fait ici, ce qu'il faut comprendre, il y a deux groupes. Le premier groupe, c'est les collecteurs d'impôts et les personnes qui sont dites pécheurs. Et ces pécheurs venaient de manière régulière écouter les enseignements de Jésus, découvrir le message que Dieu a pour eux. Et dès la première lecture, on se rend compte que certaines personnes sont vues comme des pécheurs. On dit, lui, c'est un pécheur. Pourquoi ? En raison de leur apparence, en raison de leur métier. On avait des a priori sur ces personnes-là. Il y avait comme des sortes de strates de sainteté en fonction du métier que tu faisais, ou peut-être de comment tu étais habillé. Il faut comprendre pourquoi il parlait des péagers, des collecteurs d'impôts. Ils collaborent déjà avec l'envahisseur romain, et en plus, ils sont considérés comme des traîtres à la nation, et en plus, ils prennent une part pour eux-mêmes, de manière un peu aléatoire, pour leur confort. Donc, ils avaient une très très mauvaise réputation, et on essayait de les fuir comme on pouvait. Et il y avait des personnes pécheresses, comme les collecteurs d'impôts, qui se trouvaient finalement tout le temps dans cette situation d'impureté vis-à-vis de la loi de Moïse. Parce qu'ils ne respectaient pas la loi de Moïse, ils ne respectaient pas, par exemple, peut-être le sabbat, ils devaient travailler. Et certains devaient aussi avoir parfois des relations avec les non-juifs, et ça les mettait dans des situations d'impureté. Dans les personnes qui venaient et qui étaient pécheurs, il y avait peut-être des personnes qui se prostituaient, des personnes peut-être qui devaient ramasser des cadavres d'animaux ou autres, et ils étaient tout le temps en situation d'impureté vis-à-vis de la loi de Moïse. Et en fait, c'est une situation sans issue, sans retour, sans réhabilitation possible, parce que chaque jour, ils étaient finalement éloignés de Dieu. Et ces personnes sont rejetées parce qu'ils sont en état de péché permanent. C'est comme s'il était placardé sur leurs vêtements pécheurs. à fuir. Et puis finalement, il y a ce groupe qui est composé des pharisiens et des scribes. Et là, c'est les personnes vraiment bien reconnues. C'est ceux qui connaissent la Torah par cœur, qui sont bien habillés. Tout l'extérieur est impeccable. Et on pouvait dire que, bah, avec cette apparence, les actes qu'ils font, leur piété, bah, le salut leur était... Enfin, ils ne pouvaient que l'avoir. Mais est-ce que c'est réellement le salut ? Est-ce que le salut se gagne réellement sur nos apparences ? Et ces personnes qui sont admirées par leur connaissance, par leur apparente sainteté, on se rend compte que finalement, elles ne sont pas si saintes que ça. Hein. Il y a un mot qui est choquant. Hein. Les pharisiens murmurent. Et le terme qui est utilisé dans le texte original en grec, c'est même le terme qui pourrait être compris comme « aboyer ». Donc c'est virulent, c'est une opposition virulente à Jésus. Et c'est là qu'on voit que les apparences volent en éclats. De ce temps, il y avait une sorte de maxime, une sorte de petite comptine qui circulait dans l'enseignement rabbinique qui disait « qu'aucun homme ne s'associe avec le méchant ». Donc quelqu'un qu'on considère comme pécheur. Ni même n'en fasse un adepte de la loi. C'est-à-dire que si tu ne connaissais pas la loi de Dieu, si tu ne connaissais pas l'espérance qu'il y avait dans la loi, en fait, on ne t'en parlait même pas. On te laissait dans ta situation. C'est-à-dire aucune relation ne devait être entretenue avec des personnes qui étaient jugées comme méchantes, pécheresses. Et finalement, le chemin du salut, le chemin du pardon, le chemin de la restauration d'une relation avec Dieu ne pouvait pas leur être révélé. On ne les côtoyait même pas. Et finalement, ces personnes, elles vivaient et elles mouraient avec le fardeau de leurs péchés et rejetées par tous. Pourtant, on voit qu'il y a les religieux, les pharisiens, les responsables de la loi, ben c'est des conducteurs spirituels. Ils sont là pour paître le troupeau que Dieu leur a confié, les rassembler ceux qui sont éparpillés, perdus, mourants, pour leur donner accès à la parole de Dieu. Et finalement, on voit que certains ben, sont finalement ouvertement pécheurs et peut-être raquettent les finances. Et finalement, il y en a d'autres qui veillent aux apparences, mais qui raquettent les bénédictions spirituelles et le salut éternel. Et pourtant, Jésus côtoie ces deux groupes, ces deux types de personnes. Et il accepte les invitations à des repas des pharisiens, mais aussi des collecteurs d'impôts. Et parfois, Jésus arrive même à les rassembler tous au même lieu. Alors, je pense un peu malgré eux, parfois. Et Jésus, là, il réagit à cette situation qui est intolérable. Et Jésus entend non seulement les murmures ou peut-être les aboiements, mais Jésus connaît les pensées. Jésus connaît les cœurs. Et j'imagine le cœur de Jésus qui bouillonne à ce moment-là, de voir toutes ces personnes qui ont tellement besoin de Dieu et qui n'y ont pas accès. J'imagine la tristesse de Jésus devant les obstacles qui sont mis devant ces personnes qui sont chargées de leurs péchés, chargées de fardeaux, et qui peut-être cherchent sincèrement à changer de vie, qui cherchent sincèrement à avoir une relation avec Dieu. Et moi, ça m'interroge, quand est-ce que pour la dernière fois j'ai eu cette compassion envers des situations d'injustice où des personnes n'avaient pas accès à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est quand la dernière fois que c'est arrivé d'être ému de compassion en disant « Cette personne, est-ce qu'elle a pu entendre qu'il y a une bonne nouvelle pour elle, qu'il y a de l'espérance ?» Vous savez, parfois, il y a des péchés qui sont sournois et destructeurs, et pourtant ils sont cachés derrière des belles apparences, des belles traditions, une belle justice apparente. Et la question qui nous intéresse finalement, c'est pour qui la repentance ? Mais finalement, c'est quoi la repentance aussi ? La repentance, ben, c'est un cheminement qui nous amène à, qui passe par de la douleur et du dégoût que l'on éprouve devant son propre péché. 2 Corinthiens au chapitre 7, verset 10 nous dit « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Comprenez que la repentance qui vient de Dieu, ce n'est pas juste d'être triste des conséquences de notre péché, c'est d'être triste d'avoir loupé ce que Dieu attend de nous. C'est d'être triste de ne pas ressembler à ce que Dieu désire pour nous. Et c'est vrai que parfois on peut avoir plus de remords des conséquences de nos mauvais choix ou de mauvaises actions que d'avoir fait quelque chose que Dieu déteste. Mais c'est là où justement il y a une tristesse qui vient de Dieu et qui nous amène à la vie. On peut être rebelle, en guerre avec Dieu, mais Dieu il est là et il vient nous chercher pour nous attirer à lui. Et Romains au chapitre 2, verset 10 nous dit « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa générosité, en ne reconnaissant pas la bonté qui te pousse à changer d'attitude ?» Dieu vient vers nous pour que nous changions d'attitude, pour que nous lui ressemblions, pour que nous disions « En fait, ça je ne veux plus pratiquer dans ma vie. Ces pensées-là, je ne veux plus les avoir. Ces actions-là, je ne veux plus les faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Dieu m'appelle à autre chose. » C'est ça la réelle repentance. Ce n'est pas juste de demander pardon, c'est de changer. De ne pas remettre le pied dans le même péché. Alors bien sûr, parfois on peut tomber, mais on a besoin de changer de cap. On a besoin de dépendre de Dieu. On a besoin de vivre ce temps de tristesse momentanée pour dire, effectivement Seigneur, ma vie comme elle est là actuellement, elle ne me convient pas, elle ne te convient pas. Et je veux vivre pour toi une vie qui te convienne. Et c'est là où il y a quelque chose de bon à cette repentance qui nous amène à la vie. Si nous ne vivons pas la repentance, nous allons à la mort éternelle. C'est-à-dire que pour vivre cette repentance, on a besoin d'abandonner des pensées, des actes, des paroles, ou bien parfois de l'inaction, pour nous tourner vers les pensées, les actes et les paroles que Dieu veut en nous, que nous pratiquions. Et quand on fait cela, en fait, on peut vraiment vivre une libération, comme on l'a chanté. On peut vivre une réparation, une restauration, une réconciliation avec Dieu. Parce qu'il y a de la joie à chaque fois qu'un pécheur revient vers Dieu. Et ça entraîne un changement d'attitude qu'on appelle une conversion dans nos églises. Et dans la Bible, la repentance et la conversion sont intimement liées. Beaucoup de fois, la conversion et la repentance fonctionne ensemble dans les versets. Il s'agit d'une transformation qui s'entame lorsque nous abandonnons notre vie à Dieu. Lorsque nous disons « Maintenant, je veux vivre pour toi, même si je dois porter ma croix, même si c'est difficile, mais je sais qu'avec toi, ça va marcher. » Alors, pour qui la repentance ? Romains 3, au verset 10 et le verset 23, qu'on prend aussi à la fin. « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Nous avons tous besoin de repentance. Nous avons tous besoin de Dieu. Et nous sommes tous coupables de péché. Nous luttons tous avec de la culpabilité, de la honte, du remords. Mais en fait, si ça ne nous amène pas à la vraie repentance, ça ne sert à rien. On sera juste triste des conséquences de nos mauvais choix. Mais il y a une vraie joie lorsqu'on peut dire « Oui, j'étais perdu, mais Jésus m'a retrouvé et m'a restauré. Je suis une nouvelle créature. » Et ça passe par justement cette conviction de péché que Dieu place dans nos cœurs. C'est une tristesse qui est salutaire et qui nous permet de comprendre et saisir ce que Dieu a de mieux pour nous. Et ça nous permet d'enlever les barrières qui se trouvent entre nous et Dieu. De vivre dans la sainteté. C'est-à-dire finalement aimer plus Dieu que nos péchés. Ça veut dire aussi attendre plus de Dieu que de nous-mêmes. Et le verbe ici qui est utilisé dans le texte qui, pour le terme se repentir, c'est le terme métanoïa. Ça veut dire la métamorphose. C'est ce qui se passe quand une chenille devient un papillon. C'est quelque chose qui est une transformation complète, progressive, mais il y a un avant et un après. De ce qui sortira du cocon, ça ne sera pas une autre chenille, ça sera un papillon. Et Dieu nous appelle à vivre cette transformation profonde que lui-même assure nous amener au bout. Alors pour qui la repentance ? Ça concerne tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants qui n'ont pas encore expérimenté le fait de dire « Seigneur, je veux vivre pour toi pleinement. Je te demande pardon pour mes péchés, pour toutes les fois où j'ai loupé la cible, et maintenant, je veux te suivre fidèlement. C'est toi qui es le chef de ma vie. Peut-être qu'il y a des moments où je vais tomber, mais tu vas me relever. » Et ça nous emmène finalement à un cheminement. Ce n'est pas juste une fois, hop, il s'est passé quelque chose, j'avais une sensation dans mon cœur ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui va dire que ce jour-là, j'ai commencé une nouvelle marche avec Jésus. Et dans mon quotidien, je continue de dire, aujourd'hui encore, je veux marcher avec toi. Aujourd'hui encore, je veux me laisser transformer par toi. Aujourd'hui encore, je veux abandonner ce qui m'éloigne de toi, ce qui est des obstacles avec toi pour vivre pour toi. Et ça, c'est important parce que de se souvenir que nous sommes tous en chemin. Nous sommes tous en cours de métamorphose si nous disons, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, transforme-moi, emmène-moi là où tu désires. Et je pense que par rapport à ce texte, ça nous suggère aussi que nous devons être plus exigeants avec nous-mêmes. Plus régulièrement confesser nos péchés devant Dieu. Et dans le même temps être beaucoup plus compatissants avec nos frères et nos sœurs qui cherchent sincèrement avec Dieu, qui cherchent sincèrement à mettre leur vie en règle, jour après jour, même quand c'est difficile. C'est pour ça que la repentance, elle s'adresse à tous. Et la repentance est une étape fondamentale et qui jalonne toute notre vie chrétienne, de la conversion jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est quand la dernière fois que je me suis repenti sincèrement devant Dieu, où j'ai dit, Seigneur, sonde mes pensées, sonde mon cœur, sonde mon quotidien, je veux vivre pleinement pour toi. Et enfin, comment accueillir la repentance, les versets 4 à 7. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Qui d'entre vous a 100 brebis ? C'est la question que Jésus pose. Quelqu'un a des brebis à la maison ? Non ? On va essayer de mieux comprendre qu'est-ce que c'est un troupeau de brebis, justement. Et Jésus nous invite à nous mettre dans la peau de ce berger, responsable d'un troupeau conséquent d'une centaine de brebis. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que bien que beaucoup de personnages de l'Ancien Testament étaient des bergers, on pense à Abraham, à Moïse, à David, ils exerçaient le métier de berger. Dieu lui-même se présente comme le bon berger. Vous avez un psaume qui vous vient ? Le psaume 23, quelques phrases ? L'Éternel est mon berger. Dieu lui-même se présente comme le berger. Pourtant, de ce temps, ce n'est pas le métier le mieux vu du coin. Aucun pharisien, aucune personne pieuse ne souhaiterait que son fils se lance dans une carrière de berger. Le métier de berger était réservé beaucoup à des personnes qui n'avaient pas appris de métier, comme charpentier, menuisier, ainsi de suite. Et bergers vivaient au milieu de leurs troupeaux, autant dire qu'ils ne sentaient pas toujours très bon. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé à côté d'un troupeau de quelque chose, de vaches, de brebis, de chèvres ou autre. Souvent, après, vous avez besoin de mettre vos affaires au linge, parce que ça sent. En quoi consiste le métier de berger ? Le berger, il travaille 7 jours sur 7. Mais comment on fait le sabbat en travaillant 7 jours sur 7 ? C'est péché. Soigner les animaux implique d'être en contact avec des excréments, des impuretés. Péché. Ça nous éloigne, en fait, par exemple, si on est en contact, on ne peut pas célébrer la Pâque. Les brebis peuvent être régulièrement contaminées par des vers et d'autres choses, d'autres bestioles. Et même leurs sabots peuvent pourrir. Leur laine accueille aussi de la vermine, des parasites. Donc, si vous imaginez un mouton, genre comme ça, c'est pas le cas. Merci aux enfants de me l'avoir prêté. Mais ce mouton-là, c'est celui qu'on aimerait tous avoir. Hein. Il est gentil, il est mignon, il sent presque bon. Pourtant, une brebis a une grande valeur financière. Et j'ai entendu une fois ce dicton qui dit, en fait, si tu connais la taille d'un troupeau, d'un berger, tu connais le montant de son compte bancaire. Donc, sans brebis, je pense que c'est déjà pas mal. Et pour préparer cette prédication, j'ai lu un article qui s'appelle « Psychologie du mouton ». Vous vous rendez compte quand même. Mais je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour nous. Et j'ai appris cela. Les moutons sont heureux que lorsqu'ils sont en troupeau. Et il est beaucoup plus facile de diriger un grand troupeau qu'un petit. Parce qu'en fait, il y a un système de mimétisme. T'emmènes la bonne brebis, toutes les autres suivent. Et le troupeau communique avec son berger. Ils disent par des bêlements, j'ai faim, j'ai soif, et ainsi de suite. Et puis un bon berger, il arrive à comprendre ces choses-là, et puis leur donner aussi ce qu'ils ont besoin, et parfois leur donner ce qu'ils ne savent pas qu'ils ont besoin. Mais comment se perd une brebis, du coup ? Ben, il faut savoir que lorsqu'un mouton ou une brebis a peur, elle se précipite dans le troupeau, dans la masse. Par contre, quand cette même brebis est en panique, elle court dans tous les sens, n'importe où, et elle peut même sauter par-dessus des obstacles qui sont relativement hauts par rapport à sa taille, et après, elle est perdue en plein milieu de nulle part, et elle ne retrouve jamais le troupeau. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une urgence aussi à retrouver une brebis ? Ben, un mouton qui est attrapé par un prédateur, ben, il se couche, il ne se défend pas, et il se laisse tuer, dévorer. Mais c'est pas que ça. Hein. On peut se dire, bon, notre brebis, elle va peut-être pas croiser un ours ou quelque chose comme ça. Mais rien que le fait de se renverser sur le dos avec les quatre pattes en l'air, comme ça, en fait, le mouton va mourir. Parce qu'en fait, il y a les gaz de son estomac qui vont l'étouffer et il n'arrive pas forcément à se retourner tout seul. Donc il a besoin que le berger vienne et le remette d'abord assis et après sur ses pattes. Vous voyez, j'ai bien travaillé ma leçon. Une brebis qui a peur, elle fuit. Lorsqu'elle souffre, on ne l'entendra même pas bêler. Elle va s'éteindre toute seule dans son coin. C'est pour ça qu'il est important de se mettre rapidement à sa recherche. Et dans la Bible, on voit régulièrement cette expression qui parle de se perdre. C'est-à-dire être loin de Dieu, ne pas accéder au salut, vivre finalement dans un état qu'on appelle la mort spirituelle. Être comme ce mouton qui, tout seul, à un moment ou à un autre, il va mourir, il va s'éteindre, tout seul, dans son coin. Et une brebis qui ne pas retrouver dans le silence, elle va s'éteindre. Alors d'où vient la repentance ? Ben, le berger quitte ce qui l'occupe pour se concentrer sur une seule tâche urgente. Un objectif qu'il poursuit sans relâche, trouver sa brebis. Et remarquons que la brebis est cherchée, la brebis est trouvée, et puis la brebis est portée sur les épaules du berger. Et c'est uniquement l'œuvre du berger. Et j'ai envie de nous dire ce matin, c'est l'œuvre de Jésus, le bon berger. C'est pas l'œuvre d'un homme, d'une église, d'une institution, c'est Jésus. Jésus connaît chacune de ses brebis. Jésus te donne la garantie que si tu lui appartiens, même si tu t'égares, il va te retrouver et il va te chercher, il va te soigner, il va te porter. Tu seras souvent déçu des hommes, mais de Jésus, tu ne seras jamais déçu. Et cette scène, elle résonne peut-être de manière un peu mielleuse, comme une histoire qu'on raconte aux enfants. Cependant, ça exprime vraiment la vie difficile, rigoureuse des bergers, du berger. Et là, on voit Jésus, c'est pas simple avec ces deux groupes qui sont là, qui s'entre-déchirent, alors que Jésus veut à tous leur faire du bien. Et ça nous interroge aujourd'hui, quelle brebis est-ce que je suis pour Jésus ? Tu peux mettre la vidéo, s'il te plaît ? Alors là, c'est une brebis qui a sauté dans un fossé. Et là, il y a un petit garçon qui est là, qui l'aide à la sortir. Vous voyez, il y a eu beaucoup de difficultés. Et que fait la brebis? Et je crois que ça illustre tellement notre vie chrétienne. Combien de fois on a ressauté dans le même fossé? Combien de fois on n'a pas appris alors que Jésus lui-même est venu nous sauver de nos péchés, d'une situation difficile? Je crois que Jésus veut aussi qu'on puisse apprendre ensemble. Et voyez, là, peut-être s'il y avait eu tout un troupeau, la brebis, elle n'aurait peut-être pas fait ça. C'est pour ça aussi qu'on a besoin de toute une église. Mais il faut aussi savoir que c'est un peu périphérique au thème du message d'aujourd'hui, mais c'est important de comprendre qu'en fait, c'est pas si simple que ça. Et il y a aussi parfois des brebis qui ont des rencontres violentes entre elles, si tu peux mettre la vidéo. Et c'est un berger qui témoigne.
Un animal, évidemment, ça a mal fini. Donc, un bélier mort, hop, et je pense que ça c'est son collègue avec qui ils se sont tapés ensemble, qui s'est bien amoché le crâne. Donc, on voit, c'est bien fendu là, et ça se fait exprès. Parce que ce bélier, il mange pas de foin, donc c'est qu'il a quand même mal. Bon, les traumatismes, c'est jamais bon pour les béliers, il faut en garder des séquelles. Bon, pour lui, il s'en tirera. Oh, je sais pas. Donc pour lui, il s'en tirera normalement. Ça va aller, mais son collègue n'a pas eu la même chance. Donc, je vous passerai les détails, mais il l'a tué. Oh. Bon, c'est des choses qui arrivent. Moins ça arrive souvent, mieux ça vaut. Dans l'élevage, on a toujours des imprévus. Et voilà, ça fait partie, malheureusement, du boulot. C'est pas toujours gaieté de cœur et rose tous les jours, mais... Essayez de faire avec, ça passera. Je vais m'occuper d'y passer un bon bon antiseptique, je prends la température, voir s'il ne fait pas d'infection.
Voilà. Alors c'est juste pour dire que parfois on se retrouve, comme le berger l'a dit, dans des situations compliquées. Là par exemple, c'est un bouc qui en a tué un autre, et pourtant le berger doit encore prendre soin de celui qui est blessé, le réhabiliter, et ça a des conséquences. Et on voit là le fait qu'il y a une des brebis qui charge sa bergère, et j'imagine Jésus au milieu de toutes ces choses-là. Pour nous, on a parfois un peu de mal à comprendre le côté un peu agricole des choses, mais certainement quand Jésus était en train de parler en fait à ces personnes-là, sans doute à côté il y avait peut-être un pâturage avec des brebis, un troupeau. Et je pense qu'on a besoin de voir justement là tout l'amour que Dieu a pour nous, tout le soin que Jésus a pour venir vers nous même quand on n'est pas au niveau, même quand on n'a pas le comportement qui va bien. Jésus continue même de nous soigner quand on fait du mal autour de nous. Et ça nous montre vraiment ce cœur de Jésus. Tu n'es jamais trop loin pour Jésus. Jésus vient te chercher, il vient te porter. Peu importe ce que tu as fait, il vient te guérir, il vient te restaurer, il vient te ramener à la maison. Et en plus de ça, et quand il l'a retrouvé, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener. Sitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Venez partager ma joie, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Jésus est dans la joie à chaque fois que tu reviens à lui. Jésus est dans la joie la première fois que tu viens à lui et que tu dis « Je suis perdu, j'ai peut-être fait des choses qui sont intolérables, mais je sais que tu viendras quand même vers moi pour me chercher, pour me restaurer. » Et ça nous montre que Dieu, c'est pas un Dieu vengeur, c'est pas un Dieu de colère, c'est un Dieu qui est plein de bien, d'amour. Un jour, quand Jésus reviendra, il y aura le temps du jugement, mais là c'est un temps de patience où on peut revenir à lui. Aujourd'hui, reviens à Jésus si tu ne l'as pas encore fait. Parce qu'il y a de la joie, et Jésus est dans la joie lorsque tu viens vers lui. Et cette joie, Jésus la partage avec tous ceux qui sont là dans le troupeau. Et on verra plus tard qui sont ces personnes, les 99 justes. On va faire une petite mini-série là, que j'ai appelée « Chercher et retrouver ». Donc là, aujourd'hui, on va faire juste les premiers versets. Puis la semaine prochaine, on fera la parabole du fils prodigue. Je pense que ça va permettre de s'éclairer. Mais je pense que ça nous pose aussi cette question en tant que troupeau, en tant qu'Église, en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus-Christ, de comment aussi nous facilitons le travail de ce berger, de la façon dont nous nous réjouissons avec ce berger. Et je vous partage une anecdote qui n'est pas arrivée dans cette église-là, rassurez-vous. Mais c'est un jeune lycéen, il venait de rencontrer Jésus, et puis il s'est converti, et puis il avait vraiment cette joie de vivre pour Jésus, il a demandé à se faire baptiser, il a donné son témoignage, il a dit « Jésus, c'est mon sauveur, mon Seigneur, je veux vivre pour lui ». Et du coup, quelques semaines après, il s'est fait baptiser, il a donné son témoignage, ça a fortement encouragé le groupe de jeunes, les gens de l'église, il donnait vraiment un témoignage émouvant de comment Dieu est venu à sa rencontre. Et il a été baptisé dans le baptistère, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et suite au culte, il y a un homme qui est venu voir le pasteur qui a fait le baptême et qui avait accompagné le jeune justement dans la préparation de son baptême. Et il vient et lui dit, mais tu sais, le jeune, celui aux cheveux longs avec la queue de cheval que tu as baptisé, pourquoi tu ne lui as pas demandé de se couper les cheveux avant de se faire baptiser ? Et pasteur lui a répondu, et toi, est-ce que tu es quand même dans la joie que ce jeune homme soit sauvé, qu'il suive Jésus, et qu'aujourd'hui il ait témoigné devant tous de sa joie de connaître Dieu ? Et je pense que ça nous interroge tous, alors peut-être on n'aura pas ces mêmes propos, mais quel est notre regard ? Quel est notre cœur ? Est-ce qu'on se réjouit avec notre bon berger de tous les miracles que nous vivons dans notre Église ? Des conversions, des baptêmes, des personnes qui mettent en règle leur vie, de fait que Dieu pourvoit même matériellement au jour le jour dans notre Église ? Est-ce qu'on est dans la joie ? Un petit peu de joie par là. Et moi, j'ai envie de dire gloire à Dieu, merci Seigneur ! On est tellement content d'être spectateur de ce que tu fais. Ça nous paraît normal, mais en fait, c'est des miracles. C'est quelque chose que nous, on ne peut pas produire, mais que seul Dieu, par Jésus-Christ, produit par son Saint-Esprit. Et on est là, et on l'observe, semaine après semaine, mois après mois. Ça nous ramène aux choses essentielles. Quelqu'un qui était mort, il est vivant. Quelqu'un qui devait aller en enfer, il va dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut rester sur les choses essentielles, mes amis ? Est-ce qu'on peut se réjouir ? Est-ce qu'on peut être coparticipant avec Jésus en disant « Ah, Jésus, t'as ramené quelqu'un qui est fatigué, qui est blessé. Comment est-ce que je peux l'aider ? Comment est-ce que je peux prier pour lui ? Comment est-ce que peut-être quelqu'un qui a une difficulté, je peux l'accompagner ? Comment est-ce que je peux faire de lui un disciple qui te connaisse ? Est-ce qu'on veut être ce troupeau-là ? Est-ce qu'on veut être ce troupeau-là ? Mes amis, je pense que si on veut être ce troupeau-là, ça dépendra de la façon dont nous-mêmes nous voyons Jésus, de la façon dont nous-mêmes nous expérimentons la repentance. Si nous sommes convaincus que c'est quelque chose d'immérité, quelque chose qu'on ne mérite pas, quelque chose de grandiose et de magnifique, tout peut être différent. Dieu peut se servir de nous dans ces situations-là. On fera le reste du texte la semaine prochaine, du coup, mais ça nous interroge. Comment regardons-nous notre bon berger ? C'est quand la dernière fois que j'ai demandé pardon à Dieu ? C'est quand la dernière fois où j'ai pris des décisions qui m'ont coûté ? Cette décision où j'ai eu l'impression de porter une croix sur mes épaules en disant « Maintenant, je ne vis plus pour moi, je vis pour Dieu ». On approche de cet été, et je pense que c'est un temps où le rythme se pose un peu, mais c'est l'occasion peut-être de nous poser la question, c'est qu'est-ce que je veux cultiver dans cet été ? Comment je veux vivre ce temps un peu de repos, de sabbat, de temps en famille, pour démarrer de la bonne façon la rentrée ? Qu'est-ce qui sera ma priorité pour la rentrée ? Peut-être c'est quelqu'un qui, peut-être parmi nous, n'a pas encore rencontré Jésus, n'a pas encore pris cette décision de dire « Ma Seigneur, je sais que je suis cette brebis qui est garée, cette brebis qui est loin de toi, cette brebis qui est peut-être en difficulté, peut-être je sens que je suis en train de mourir loin de toi. Aujourd'hui, tu peux juste dire, viens, sauve-moi, porte-moi, ramène-moi à la maison. J'abandonne ma vie passée, j'abandonne mes péchés, j'abandonne ce qui ne te plaît pas, parce que maintenant je veux vivre pour toi pleinement. Ce matin, tu peux juste dire ça à Dieu, et je t'assure qu'il va se passer des grandes choses dans ta vie. Et je vous invite à la prière pendant ce temps que l'équipe s'installe. Oui, Père, nous sommes là et nous venons simplement, humblement devant toi, Seigneur, et c'est vrai que tu nous parles de cette joie que tu as à chaque fois qu'on examine nos vies et qu'on se conforme à ce que tu désires pour nous, Seigneur. Je te prie que dans ce temps, tu puisses sonder nos pensées, sonder nos cœurs, sonder nos actions, sonder notre quotidien, nos calendriers. Examine-nous par ton Saint-Esprit. Parle-nous. Montre-nous les choses qu'il faut qu'on te confie, les choses dont il faut qu'on se repente, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je te prie que tu nous donnes aussi le courage de les abandonner. Que tu nous donnes le courage d'aller à ta suite, de prendre des décisions qui nous coûtent pour toi. Seigneur, nous voulons vivre cette joie que tu nous déclares, cette joie que personne ne peut nous voler. Cette joie que nous ne pouvons pas produire, mais que toi tu donnes gratuitement, librement, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je te prie particulièrement pour les personnes qui n'ont pas encore eu cette opportunité de faire cette prière, de donner toute leur vie. Je te prie que dans ce temps, tu puisses leur parler et leur donner la conviction de s'adresser à toi, peut-être pour la première fois, et de dire, Seigneur, prends ma vie, reçois tout ce que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, et désormais je veux vivre pour toi, parce qu'en toi, il y a la vie, et la vie en abondance. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que tu ôtes les obstacles qui empêchent de se confier en toi, Seigneur. Que ton Saint-Esprit nous sonde et nous donne vraiment ce courage de vivre pour toi, s'il te plaît. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen.